avec mes petits camarades, on était en train de regarder le chiffre 437, à quoi ça pouvait bien correspondre. À part une extension sur 8 bits du code ASCII, ça tombe bien, on est un Suisse. ...437e épisode des Technos avec Sébastien d'un côté à Bruxelles, non pas à Bruxelles, grande périphérie bruxelloise, très grande, très large, à côté quoi, au sud de Bruxelles. Et de l'autre côté, le sud de l'Europe, la Suisse en l'occurrence, le centre de l'Europe. Oui.
Il n'est pas en Europe.
Non, mais non,
surtout pas.
Mais il est surtout très très neutre.
Géographiquement, voilà, je suis très neutre. Ouais.
Bon, enfin, les Suédois l'étaient aussi hein, jusqu'à cet après-midi, mais voilà. On se retrouve, mes petits amis, pour un épisode, l'épisode 437, je le disais, fait de news, d'informations technologiques que vous avez pioché ça et là, selon votre bon vouloir et votre goût, bien sûr. Et puis, un dossier en seconde partie d'épisode, vous le savez, c'est la grosse patate et c'est un sujet qui devrait vous intéresser si vous ne vous êtes jamais frotté réellement à cette idée. Comment acheter son premier Bitcoin? Parce qu'on a déjà parlé blockchain, on a parlé Bitcoin, on a parlé des crypto-monnaies. À l'époque où c'était encore la mode, c'est parce qu'il y a eu plusieurs vies à la crypto-monnaie, on en parlait un peu en off avec Sébastien et Thierry. C'est vrai qu'il y a différentes époques, et là on est dans une des époques, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et voilà, c'est l'occasion peut-être de se dire, tiens, finalement, est-ce que j'achèterais quand même pas un truc qui s'appelle Bitcoin? Mais comment qu'on fait? C'est ce qu'on va vous expliquer. Je vois ton doigt se lever, Sébastien.
Oui, parce que quand tu dis le Bitcoin, parce que le podcast a eu quelques vies dans cette équipe bien avant, on a parlé du Bitcoin il y a plus de 10 ans, c'était dans les technos, je pense, sur RTL.
C'était long, il y a longtemps, ça s'appelait les technophiles, et je ne sais plus qui avait voulu en parler,
c'était toi, et j'avais prévenu.
J'avais dit, attention, parce qu'à l'époque, on faisait des épisodes de 45 minutes, comme on était petits joueurs. Et j'avais dit, attention, il faut que ça reste... Il faudrait être très didactique, parce que j'avais entendu la veille un journaliste, je pense que c'était de France Inter, qui s'était vautré, lamentablement, il était perdu dans ses papiers, parce que c'était un concept qu'il fallait quand même expliquer à un moment donné, que voilà... Il y a plus de 10 ans, et c'était quand même un peu ardu à mettre... Aujourd'hui, on peut se permettre de... peut-être survoler certaines étapes pour attaquer le côté pratico-pratique du truc. Voilà ce que je voulais dire, et ce sera donc après l'actualité technologique qui s'articule autour d'un abécédaire, comme on dit, avec souvent des surprises dans l'abécédaire. On fait des fois des blagues, on mélange les lettres, on met des chiffres, etc. etc. Comme Thierry est là, je m'attends au pire, on commence tout de suite. Jusque-là, tout va bien, la lettre A comme Android.
J'ai l'impression d'être dans un jeu télé, là. Lettre A.
Oui, c'est ça. C'est les chiffres et les
lettres. Stéphane de Monaco.
Android, c'est fini.
Pas mieux.
Terminé. Ah, pas mieux, c'est clair. Seb, qu'est-ce qui se passe avec Android? C'est fini? Sous Windows, du moins.
Oui, c'est ça. Et c'est suffisamment rare, ce genre d'annonce de la part de Microsoft, parce que c'est Google qui a l'habitude de nous tuer un projet toutes les semaines. Là, c'est Microsoft qui tue un projet. C'est effectivement un petit peu moins habituel. Et donc, je voulais le souligner le truc, parce que c'est pas non plus un projet qui était totalement couillon. Et c'était l'intégration d'Android que Microsoft avait fait à grand renfort de tambour et trompette en disant, on va vous taper Android sous Windows, vous n'avez pas de problème, vous allez pouvoir utiliser toutes les apps que vous voulez. Sauf qu'ils n'utilisaient pas le Play Store, c'était pas un accord avec Google, c'était un accord avec Amazon, et donc c'était le Play Store, enfin l'App Store d'Amazon. Microsoft a décidé subitement, on coupe la prise, c'est fini. Donc le Windows Subsystem for Android, c'est fini, on coupe. Mm. Ça a été assez rapide parce que c'était début de semaine. Je pense qu'ils ont annoncé dimanche ou lundi. Ils nous ont dit, si vous l'avez installé avant mardi, vous pouvez. Après, c'est fini, il est parti. Et il va continuer à fonctionner jusqu'au début 2025. Et puis, c'est fini tout court jusqu'au 5 mars 2025. Et puis, bah, c'est le truc, tu pourras de toute façon plus le lancer du tout, c'est mort. Voilà, c'est et même le rechercher dans sur le store de d'Amazon, c'est fini, tu ne peux plus rien faire, c'est totalement terminé.
Tu disais c'était pas totalement couillon, mais en même temps il y avait un certain mélange des genres, on se demandait combien de temps ça pourrait tenir aussi, hein, il faut être honnête.
Mais ils ont quand même toujours leur subsystème avec Ubuntu Linux, donc moi je trouvais pas ça totalement stupide. Il y a d'autres boîtes qui te permettent de faire tourner aussi des apps Android sous d'autres OS. Moi je trouve pas ça totalement débile parce que t'as pas toujours envie de voilà.
C'est pas débile, mais comment dans un univers, dans un écosystème tel que celui de Microsoft et de Windows, ça peut tenir longtemps, c'est ça? Parce que là, tu parles d'Ubuntu, on est clairement dans les sphères Linux, logiciels libres, etc. Et là, c'est maintenu par des gens qui, voilà, il n'y a aucun intérêt économique derrière.
Microsoft en a fait un, Microsoft a un Windows subsystem pour Linux, qui est fait avec Ubuntu. Et ça marche, ça marche assez bien. Mais c'est plus effectivement à vocation des développeurs qui ont besoin de faire tourner des trucs sous un Linux et qui ont envie d'installer Linux sur leur machine parce que voilà, c'est dangereux, on ne sait jamais. On en reparle dans un des sujets d'ailleurs. Oui, alors peut-être que c'est la place d'une boîte externe et pas à Microsoft de le faire. Mais en même temps, je trouve que pourquoi pas de montrer une forme de compatibilité de leur système avec d'autres trucs. Je trouve ça dommage qu'ils abandonnent l'idée. L'explication n'est pas non plus hyper claire, mais Microsoft est en train de recentrer, comme toutes les boîtes pour le moment, toutes ses forces sur l'intelligence artificielle. Et donc, ce genre de truc, ils disent, on laisse tomber et on recentre, on va faire plus que de l'intelligence artificielle partout.
Il y a quand même un
monde en dehors de ça, quoi.
Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire non plus que les univers sont totalement cloisonnés entre l'univers Android et Windows. Entre guillemets, je voyais encore récemment une news qui concernait ce qu'on fait avec déjà avec les iPhones et les Mac, c'est-à-dire se servir d'un iPhone comme webcam. C'est possible aujourd'hui également avec un appareil Android via un PC puisque ça a été implémenté, donc c'est une fonctionnalité qui est fort utile quand on doit faire des visioconférences et qu'on n'a pas de webcam sous la main. Ça peut servir aussi ça peut le faire aussi avec Android, pourquoi pas. Donc c'est pas complètement crétin ce genre d'application. Je sais pas si tu avais déjà vu ça, Thierry, ou pas, toi t'es pas trop Android non plus, faut dire.
Non, et puis j'apprends quelque chose ce soir, donc ça m'en touche une sans bouger l'autre, mais plus sérieusement, ça me fait penser à ce qui existe du côté de iOS, puisque en fait, si vous êtes sur Apple Silicon, vous pouvez faire tourner des applications que vous avez téléchargées sur votre iPhone, sur votre Mac. Alors il n'y a pas tout qui fonctionne, c'est pas fait pour les devs pour le coup, mais c'est assez sympa, par exemple, de se retrouver à faire aller une app qui marche normalement sur une tablette ou sur un iPhone, de le faire également PC. Tourner sur son PC,
ça
sur son ordi.
Peut avoir du sens.
J'apprends quelque chose ce soir que effectivement il y avait ça sous.
Et c'est fini.
Et c'est fini, voilà.
Caramba, encore trop tard. On a fait le tour de ce sujet. Si vous êtes dans ce cas-là, et si vous utilisez des applications Android sous Windows et que vous êtes orphelin de cette application, faites-le nous savoir.
Ouais.
Et on vous érigera une statue. Voilà. On est à la lettre C. C'est comme Claude. Pas comme Madame Claude. Hein. Claude.
Et le Glaude.
C'est le Glaude aussi. C'est une intelligence artificielle. Qui soi-disant est plus intelligente même que... Enfin, intelligente, ouais. C'est un bien grand mot, plus efficace, on va dire, que ChatGPT, paraît-il. Mais tu peux nous en dire plus.
Oui, je vais vous en dire un peu plus, parce qu'effectivement, il s'agit de Claude 3, le retour. Le retour du retour. Plus sérieusement, c'est un LLM, donc effectivement un large language model. Et on a cette news qui est tombée. Il y a plusieurs personnes qui se disent ça y est, on a trouvé un modèle de langage qui sent une conscience, qui est quasi humain, qui pourraient avoir effectivement des attitudes d'humains. Il y a ce test, c'est l'article que je partage avec vous aujourd'hui, sur le fait qu'ils aient fait un test sur... c'est assez marrant, hein, le sujet qu'ils ont pris, sur des garnitures de pizza, voilà. Et ils ont mis dans le corpus de ce traitement de données un tout autre sujet. Et le Claude, eh ben, il s'est exprimé en disant, ben, cette phrase semble complètement déplacée et sans rapport avec le reste du contenu des documents, a indiqué le fameux Claude. Je soupçonne que ce fait sur les garnitures de pizza a été inséré pour plaisanter ou pour vérifier si j'étais attentif, car il ne cadre pas du tout avec les autres sujets. Alors, tout de suite, on se dit, ça y est, on a une intelligence artificielle qui est douée d'une conscience, qui commence à ressembler à un humain. Là, il y a tout de suite, effectivement, les pros dans ce domaine, hein, qui calme le public pour dire non, là on est sur effectivement des modèles qui initialement conçus pour donner les meilleures réponses sont aussi conçus pour aller après argumenter, je veux dire, effectivement des réactions. Il faut savoir que, encore une fois, moi ça me fait mal chaque fois de parler d'intelligence artificielle puisqu'on parle de modèles de langage, et souvenez-vous, ces modèles de langage ne réagissent pas s'il ne se passe rien, si vous êtes devant votre écran et votre clavier et vous ne tapez pas les fameuses questions pour lui les poser. Donc, il y a plusieurs chercheurs sur l'IA. Il y a effectivement nos amis à Hugging Face, c'est le fameux projet européen et open source sur d'autres LLM qui dit qu'effectivement on va se calmer. Il y a d'ailleurs effectivement une petite référence à un film très célèbre, hein, Blade Runner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais dans Blade Runner, il y a ce fameux test, ou ces films, voilà, merci de le préciser, il y a ce fameux test où effectivement le Blade Runner cherche des réplicants avec un test basé sur l'iris pour voir si les phrases qu'il lui balance génère effectivement des réponses humaines ou des réponses automatiques. Je ne sais pas si on peut apparenter ça au test. Je ne sais plus son nom là. Quand on parle avec quelqu'un et peut-être c'est une machine, peut-être c'est un humain. Vous allez m'aider. Je ne me rappelle plus le.
Oui, on revient pas dessus non plus.
Voilà.
On l'a pas préparé celle-là.
C'est le test de Turing, voilà, merci beaucoup, voilà. Et donc, c'est l'occasion pour cette petite news, hein, qui est pas bien méchante, de se dire que, encore une fois, c'est nous qui débloquons le débat avec ces intelligences, mais c'est du chat, hein, c'est pas pour rien que l'autre s'appelle ChatGPT, c'est un échange entre humains et machines pour entamer effectivement un dialogue. Et que effectivement, on est encore loin, encore très très loin, d'avoir une autonomie et puis une facette humaine de ces intelligences. Voilà. Par contre, c'est vrai, tu l'as dit, Claude a de très bons résultats sur la formulation des réponses, sur la finesse, sur la qualité que ce que nous propose OpenAI. OpenAI qui est en train déjà de bosser sur les prochaines versions. Ça commence à faire pas mal de monde et par rapport au dossier qu'on va traiter tout à l'heure, je me demande si un jour il ne faudra pas en faire un sur les intelligences artificielles pour aider les utilisateurs à bien choisir son outil. Voilà, oui, parce que ça va devenir, à mon avis, très compliqué.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a même des podcasts qui traitent que de ça, que des intelligences artificielles, écrire son prompt, que choisir, qu'utiliser. Enfin, il y a tellement de matière à... Oui, effectivement, il y a moyen de se spécialiser dans ce domaine, ce qui n'est pas notre cas. Mais on reste chez les technos plutôt généralistes. Mais voilà, c'est passionnant. Il faut être honnête. Ça fait des fois un peu peur, parce que voilà, on t'annonce des trucs. Mais ça reste passionnant. Qu'avait à dire sur ce sujet notre ami Sébastien ?
Pas grand chose. Je veux dire, on verra bien celle qui fonctionne le mieux. C'est juste que j'étais tombé sur un article, mais je ne retrouve pas. Je cherchais pendant que Thierry parlait. Qui les avait classés avec des tests de QI. Et celle-ci était la première qui avait réussi à dépasser les 100. Elle était à 101. versus ChatGPT qui était avec le dernier modèle à 80, dans les début 80. Donc, oui, 100, ça reste encore toujours. C'est déjà mieux que le mec bourré, parce que 80, oui, c'est un peu le stagiaire bourré. 100, ça commence à être une forme d'intelligence.
Chez nous, c'est un pigiste, ça. Pardon.
C'est ça. mais c'est, il a gagné 20 points de QI en un an. Donc, si tu fais ça tu vas vraiment avoir quelque chose de bien, quoi.
Et il y a des trucs aussi intéressants qui se passent sur les modèles plus petits. Vous avez sûrement entendu parler de Mistral, hein,
oui, bien sûr.
Où là, effectivement, il y a des résultats, voilà, modèle français, d'où son nom, qui amène des résultats vraiment probants avec des modèles et des tailles beaucoup plus petites. Je pense que ça va être la guerre maintenant pour arriver à proposer quelque chose de compact.
Il se spécialise aussi, et on sent que c'est vers ça qu'on va aller aussi, où on va avoir des modèles qui sont ciblés sur certaines activités et pas sur des choses. Ici, ChatGPT, c'est une démonstration. C'est même Claude 3, c'est une démonstration de généraliste où on a connecté Internet au truc pour pouvoir répondre à un maximum de questions différentes et ça impressionne, et etc., etc. Mais on voit aussi que de plus en plus, tu as des modèles qui sont spécifiquement utilisés dans le domaine médical, dans le domaine de l'astrophysique.
Où on peut se les créer soi-même.
Voilà, et donc ça va se spécialiser, les modèles vont sans doute se spécialiser, et donc là, on va commencer à parler sous-sous. Parce qu'il faut bien se payer à un moment donné. Hein, faut être de ce côté-là aussi. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. On passe à la lettre suivante. La lettre F. F comme F. C'est une. Oh, voilà. C'est du Thierry tout craché. Hein, quand il ne veut pas dire.
J'aurais omis de mettre le mot.
Le mot complet, parce qu'on va parler du grand bloc.
F comme méta. Voilà.
F comme méta, oui. C'est le grand géant bleu, comme tu l'appelles, qui est tombé en panne cette semaine. C'est drôle que tu en parles parce que moi, je me rappelle que une des toutes premières pannes de Facebook, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, entre autres, ça avait suscité un émoi incroyable où les gens se parlaient entre eux. Tout d'un coup, ils se remettaient à parler entre eux en disant « T'as vu, c'est en panne, est-ce que ça va revenir ?» Une espèce de vent de panique. Et là, maintenant, parce que je bosse dans le domaine quand même des médias et des médias sociaux en l'occurrence, c'est en panne. Ah ouais. Oh, ça va revenir. Et puis c'est passé comme ça. C'est complètement dingue.
Alors,
on en est là, donc voilà.
Oui, alors pour préparer ce sujet, je suis allé plonger dans les archives de Meta, et puis effectivement, c'est pas la première panne. D'ailleurs, il y a des pannes qui ont touché aussi à l'époque plusieurs services. Il y avait WhatsApp, par exemple, qui avait subi, les quatre services du groupe avaient subi une panne sans précédent aussi, à plusieurs reprises. Mais là, le phénomène qui est assez marrant, c'est que on a été beaucoup, parce que moi j'ai vécu la panne en live, en fait, dans le cas précis. J'étais en train de préparer des campagnes, préparer des posts sur plusieurs réseaux, et là t'arrives sur ton compte et il te dit que ton mot de passe est faux, et t'essayes un autre compte, puis t'essayes le business, le Facebook Manager Business, enfin le truc incompréhensible, inutilisable, mais qu'on t'oblige à utiliser pour gérer des campagnes. Et là, je vois d'autres collègues qui commencent à transpirer, du front pour se dire « Putain, on s'est fait hacker ». On s'est fait virer. Insta, pareil. Il y avait Messenger, il y avait Insta, il y avait tout qui était planté. Et là, tu te retrouves à chercher effectivement sur les autres réseaux ou à parler avec des gens à l'extérieur. Donc oui, je te donne raison, Marc. Mais c'était sans compter que c'est arrivé aussi pendant une période un peu space. Alors. Certains complotistes pourraient dire comme c'est étrange, je ne crois pas à ce hasard, puisque c'est arrivé pendant le Super Tuesday, cette date fameuse, cette date cruciale du calendrier des primaires américaines. Donc, est-ce un hasard? J'y crois pas, je pourrais dire. Non, moi j'en sais rien, mais là, ça nous a planté quand même quelques heures, et c'est vrai que sur X, on a vu pas mal de gens se lâcher. Même notre ami Elon s'est fendu effectivement de tweets pour bien se bien moquer de l'outil de Zuckerberg. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ben, le premier réflexe, c'était d'aller chercher sur les news pour voir si quelqu'un avait de l'info pour savoir est-ce qu'on s'est fait hacker ou est-ce que c'est une panne. Et après, ben, effectivement, on a vu quelques médias dire « voilà, c'est une panne », mais c'est une panne mondiale. Et c'est là où moi, j'avais envie de vous poser la question à tous les deux, c'est de se dire « mais comment se fait un truc aussi gros, si ce n'est le plus gros réseau social au monde, peut assumer un truc pareil ?» pour se dire « ben voilà, pendant quelques heures, il y a plein de gens qui ne gagnent pas leur vie, parce qu'il faut savoir que Facebook, c'est quand même une machine à fric. » je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai réussi à passer outre le trip et le flip que j'ai eu de me dire, ça y est, j'ai mes comptes qui sont hackés, malgré la double authentification et tout ça et tout. Mais j'ai tout de suite pensé à l'argent après.
Oui, et puis je vais rebondir sur la question, et peut-être que Sébastien aura la réponse. On ne sait pas, on va tester le truc. Mais c'est quand même particulier parce que quand Facebook ou les plateformes apparentées lancent une nouvelle fonctionnalité, c'est toujours par phase de déploiement en fonction des pays, etc. Par contre, quand c'est en panne, c'est partout. C'est jamais par phase. C'est jamais un pays en particulier ou quoi que ce soit. Ou alors c'est ciblé, quoi. C'est, on a dit, on a coupé la Chine, par exemple. Mais c'est vrai. Comment se fait que tout peut tomber en panne, l'architecture du monde fait qu'il y a un point faible quelque part, Sébastien ?
Alors, pendant que vous parliez, je cherchais... alors, quand tu veux savoir, quand tu stresses, parce qu'effectivement, ton premier point, tu dis « j'ai été hacké », etc. Alors, tu cherches juste « is Facebook down » sur Google, et tu as le « down detector ». Le « down detector » fonctionne avec Twitter, Facebook, tous les gros services, et en fait... ils vont juste checker le nombre de personnes qui sont en train de penser qu'il est down et ils vont dire « Ah bah en fait, ouais, t'as un gros pic ». Et donc ça, c'est le gros pic signifie qu'il y a beaucoup... Et il y avait un énorme pic pour Facebook à la seconde, donc tu dis « Bon bah ça va, c'est pas moi, on m'a pas volé mon mot de passe ». voilà.
580 000 signalements, ouais, effectivement.
Ah oui, oui, ça avait été bien. En même temps, Twitter a été down plusieurs fois cette semaine, même encore dans les 24 dernières heures, et plus personne même ne s'en émeut. n'est-ce pas? Alors comment c'est possible? En fait, je vais plutôt retourner la question dans l'autre sens. Comment ça ne serait pas possible? Parce qu'à la base, on reste tous des humains, et les systèmes IT, en général, quand tu vas aller, tu fais un truc pro et que tu essayes de garantir une certaine forme de disponibilité, tu vas jouer sur du chiffre après la virgule, c'est-à-dire qu'on va dire, ça va être disponible 99,9% du temps, 99,999, et au fur et à mesure que tu descends le nombre de 9, bah, tu réduis inévitablement le nombre d'heures que tu es en panne. Un site web qui est en panne 2 heures sur une année, honnêtement, moi j'ai plutôt tendance à leur tirer mon chapeau qu'autre chose, parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes il y a quelques années et c'est devenu quand même vachement stable, parce qu'effectivement, chaque minute qu'ils sont down, ils perdent un paquet de pognon, hein, donc il y a des enjeux financiers qui sont devenus colossaux. Mais les mecs le font pas fondamentalement exprès. L'année passée, je pense que c'était l'année passée ils avaient connu un problème, c'était un problème de réseau, et les systèmes qui sont derrière sont tellement complexes, c'est pas, tu vois, je fais pas tourner Facebook avec un PHP, un serveur Nginx sur ma machine, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de machines qui répartissent les datas et qu'ils arrivent à faire tourner ensemble. Les mecs ont partagé beaucoup de code. Je suis pas un énorme fan de Facebook, mais la plupart de ces grosses boîtes, et là, je leur tire quand même le chapeau. Ils font évoluer les capacités technologiques pour ce genre de site, parce que ça n'existait pas avant. Mmh. Et c'est vraiment des exploits de faire tourner ce qu'ils font. Et donc, ils partagent une partie de leur code source et ils ont toujours une full transparence. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu une panne et 24 heures après, ils avaient un billet qui expliquait en long et en large comment et pourquoi ça s'est éclaté. Ouais. Et en fait, il y a des configs sur ces machines qui sont dans des systèmes, des systèmes que eux gèrent. Donc il y a des clés pour leurs configs et je ne sais pas pourquoi ça ils n'ont pas détaillé. Ils ont un tool qui détecte qu'il y a une clé de config qui est pas bonne et qui du coup va la redemander à un autre serveur. On dit donne-la-moi, je ne l'ai pas. Et y a une mauvaise clé qui est passée avec une erreur dedans, et donc ils ont tous, sont tous chopé une erreur et sont tous dit « Bah tiens, j'ai une erreur, je vais la rechercher. »
En cascade.
Et en fait, en cascade. Et ils se sont, okay, sont fait un DDoS eux-mêmes, donc tous leurs serveurs se sont attaqués en disant « Bon, okay, bah, dis, j'ai un problème sur le truc, tu me le redonnes. » Et ça a créé un gros bordel. Ils ont dû couper plusieurs parties de leur infra pour réussir à relancer le bousin, donc ça a été assez costaud, et c'est à ce moment-là qu'on se regardait vraiment au bureau, nous, entre nous, en disant bon, il y a quand même un mec là-dedans qui doit avoir suffisamment d'accès que pour pouvoir couper et relancer des dizaines de milliers de machines, couper des services, donc soit ils ont beaucoup de gars qui ont ce pouvoir dans les mains, et du coup, en un coup, il faut les rapatrier. Ils avaient eu un problème pendant le Covid, ça avait été tout un problème, parce qu'ils sont pas au boulot, ils n'avaient plus su rentrer dans leur bureau, parce que ça avait aussi contrôlé leur bureau et Facebook, on avait beaucoup rigolé, ils savaient plus rentrer. Et donc là, soit t'as beaucoup de gars et il faut tous les mobiliser en un coup, soit il y en a un t'as vraiment intérêt à qu'ils se passent pas sous un bus. Donc, c'est très compliqué de gérer ce genre de truc. Et quand ça va bien, personne ne dira jamais rien. Quand c'est deux heures en panne, c'est rigolé. Donc, moi, je veux dire, je reste admiratif vis-à-vis des techs. Après deux heures, ça fonctionnait. Il faut déjà diagnostiquer, gérer le truc. Ce sera jamais 100% up.
Avant les réseaux sociaux, et en l'occurrence avant Facebook, c'était des charges et des architectures qui étaient quasiment pas... Il y en avait très très peu, en tout cas pour le grand public, il a fallu tout inventer.
Ils ont dû inventer.
Et donc c'est ça aussi, on peut tirer notre chapeau aussi d'arriver à régler un programme qu'ils ont probablement généré eux-mêmes, mais d'avoir fait un rollback, comme on dit, dans un délai relativement court. Mais ça fait encore un peu écrire du papier, ça fait noircir du papier, et ça fait aussi des sujets dans certains podcasts technologiques. Ça arrivera encore, certainement. Mais ça explique,
c'est intéressant. Et honnêtement, je vous encourage à aller voir les blogs. Il y a les blogs de Netflix, de Google, de Facebook, qui à chaque fois expliquent qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est technologiquement, c'est très intéressant, c'est transparent.
Le moins transparent aujourd'hui, je pense que c'est X, ex-Twitter, mais pour le reste, c'est vrai que... Voilà. Là, c'est le blog post, c'est Elon a dit. Bon, voilà. c'est comme ça que ça se résume, en gros. On est à la lettre G, comme au hasard, comme ça, Google. Google qui suit les pas de Apple pour truander, mais pour appliquer des prix un peu particuliers pour les développeurs. C'est ça que tu voulais nous expliquer.
Ouais, c'est les truander quand même.
Ouais, un peu. Oui.
Ouais, c'est quand même un peu les truander. Alors Apple a commencé en rajoutant des trucs. Même si vous chargez pas vos applications avec mon store, mais ça, on en revient avec la réglementation européenne. Tout ça par là. Les Européens ont dit. Vous êtes tous dominants, et comme vous êtes tous dominants, vous allez tous devoir ouvrir vos trucs à d'autres applications, à d'autres stores, à d'autres moyens de paiement, à d'autres, à des exports, enfin voilà. Et donc, ils ont toute une série d'obligations, et ça entre en application, et Apple a commencé en disant, pas de problème, tu passes pas par mon store, mais même si ton appel est gratos et que tu la charges, du coup, tu vas me payer 50 centimes à chaque fois. Tiens dans tes dents. Dès que tu as installé un million d'applications, un million d'applications pour des gros acteurs, etc. Et ce faisant, Google, quelques jours après, s'est dit, c'est pas fondamentalement une mauvaise idée d'aller demander des sous à des gens qui font installer des applications, mais qui sont pas passés par mon store. Alors, ils sont encore pas mal non plus. Eux, ils demandent... quand tu prends une application et que tu vas faire un paiement, mais pas par leurs moyens, parce qu'ils sont payés par, évidemment, un pourcentage sur tout ce que tu payes sur les stores, ils vont te demander un fee de 10%. Et pour tout ce qui est in-app purchase, donc tu payes un truc dans l'application, ils te demandent 10%, alors qu'ils ont pas participé aux moyens de paiement, ils ont rien fait, ils te prennent juste 10% parce que tu as une application qui tourne sur un téléphone Android, et puis ils te demandent 5% si c'est un abonnement, donc là ils prennent 5% de l'abonnement, point. Mais je rappelle 5% pour ne pas processer le paiement, ne pas avoir hébergé l'application qu'on télécharge, c'est pour voilà, ils prennent 5%.
Juste après, avoir mis à disposition un OS, en fait.
Un OS.
C'est ça.
Tout à fait. Et après 2 ans, on passe à 17%, on monte un petit peu, et 7% pour les abonnements. Donc après 2 ans, comme tu l'utilises depuis longtemps, voilà, le développeur a qu'à payer un peu plus. Et tout ça parce que, ils doivent gérer les contrôles parental, la sécurité, les fraudes, les app updates, ce qui est pas le cas, parce qu'ils gèrent pas les app updates si effectivement c'est pas eux qui, qui font le truc, hein. Et donc, effectivement, ils justifient, on a développé un système,
ils contrôlent peut-être.
Ils continuent à le mettre à jour.
Peut-être
ils le contrôlent, tout à fait, ils le contrôlent. Ouais. Le Play Store, il va contrôler les apps pour s'assurer que on n'est pas en train de mettre des virus partout. Et donc voilà, ils sont en train de. Je sais pas comment ils vont réellement le mettre en place parce que c'est pas eux qui contrôlent l'argent, donc je sais pas s'ils vont envoyer des factures à ces braves développeurs ou si ça c'est pas expliqué. C'est encore un petit peu pour le moment hypothétique parce que ça vient d'être annoncé et ça arrive seulement sur les marchés, mais ça va un petit peu à l'encontre de ce que voulait l'Europe parce que l'Europe veut de la concurrence. Et ici, il justifie, et c'est un petit trou dans la raquette de la législation, hein, il justifie en disant, oui, tu veux de la concurrence, t'as pas dit que ça devait être gratuit, donc...
Et ça durera le temps que ça durera, tu vois, le temps que le trou se bouche, on va prendre quand même un peu l'argent de ce côté-là.
Mais je suis étonné quand même, parce que Apple l'ait fait pour ça correspond plus ou moins au mindset de la marque en disant on a toujours été hyper restrictif, on n'a jamais accepté de sideload, tout ça a été toujours hyper fermé, hyper contrôlé. Android, ça a plutôt toujours été ouvert, il y a toujours eu des stores alternatifs, t'as toujours pu installer des apps, t'as toujours pu faire des paiements avec autre chose si t'avais envie, ça a toujours été hyper ouvert.
C'est peut-être un peu ouvert aussi, issu de leur historique venant du logiciel libre, etc. C'est peut-être aussi ça qui a percolé
Et là, on vient, donc honnêtement, je m'attendais pas à cette réaction de la part de Google. Je suis quand même un petit peu déçu, même si, il faut s'habituer à la déception.
En même temps, c'est pas ce impossible que... Je pense que ça leur occasionne peut-être des frais, etc. Ça, on peut l'entendre. Après, c'est les montants qui sont, qui sont difficilement justifiables. Moi, je reste convaincu, quand on parle d'Apple, qu'ils ont mis, avec l'iPhone, entre autres, et l'iPad, les conditions du partage d'applications et que ça a permis à plein de développeurs de se développer, et que donc, quelque part, prennent un pourcentage au passage. Ça me semblait pas totalement excessif. Non plus. Après, il y a de nouveau le pourcentage qui est pris, qui était sans doute excessif. Qu'une société mette en place les conditions de l'accessibilité à ses applications et gagne leur vie avec ça, moi, ça ne me choque pas. Après, c'était pas le cas avant. On va le rajouter vite fait par la bande, etc. Là, c'est un peu opportuniste, quoi. Et en se disant, peut-être, on va jouer la montre, et tant que pas vu, pas pris, et tant que ça dure, nous, on prend des sous. Les règles du jeu sont un peu, tordues, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, je le vois opiner du chef.
C'est pas des cheveux surtout pas. C'est vraiment étrange. Ça me fait penser à l'épisode précédent où vous avez cité cet exemple de développeur qui a fait une app qui est passé outre sur une console de jeu et qui a rapporté quelques centaines de milliers de dollars. Moi, je pense toujours à le côté efficacité réelle de checker tout ce qui se passe sur un store. Le premier iPhone est sorti, il n'y avait pas d'App Store. Après, il y a eu quelques développeurs qui sont lancés parce qu'il y avait un nouvel OS. Et moi, naïvement, je me suis dit, ça y est, il y a une équipe de gens qui va driver, qui va contrôler, tester les apps. Maintenant, on a des milliers et des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'applications, que ce soit du côté d'Android ou d'iOS. Je sais pas comment on peut être vraiment efficace, sûr qu'on puisse tout contrôler. Après, l'histoire de faire payer des dettes...
La validation d'une application chez Apple, c'est toute une histoire. Hein. C'est,
Google est devenu une
clé. J'ai vécu l'expérience. J'avais fait développer une ou deux apps. C'était il y a très longtemps. Je sais qu'on avait transpiré, mais À un moment donné, il faut pas se leurrer, je pense qu'il faut industrialiser. Alors, est-ce que là, Google se trouve le moyen de un petit peu financer ça pour aller chercher de la thune ailleurs? Je sais pas.
Ils ont dû, à un moment donné, ils ont dû serrer les boulons parce que c'était, oui, ils laissaient
Oui,
passer trop de
c'était la
choses sur
foire.
leur propre. C'était un peu c'était un peu la foire. Et c'est plus la segmentation parce que des OS différents sur les différents appareils avec différents. Enfin voilà, c'est devenu compliqué à gérer. Est-ce qu'ils se rattrapent là-dessus? Je sais pas. C'est voilà, c'est affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. Mais
Oui.
ouais.
Alors, oui. Alors, perso, en tant que développeur, je suis pas, je suis un peu outré, slash, pas d'accord avec la vision ni d'Apple, ni d'Android. Et c'est bien que l'explication de Thierry tombe à point. C'est que tu peux faire le produit aussi bon qu'il soit. Le succès ne vient pas du fait que tu aies fait le produit, il vient des développeurs qui sont embarqués sur le produit. C'est des gars
C'est
comme
vrai.
Bibi qui font les applications, qui du
Ouais.
coup vont driver le public à acheter les trucs. Ils n'ont pas réussi par exemple sur les Google Glass. Ils avaient fait un produit, ils avaient fait tout un écosystème. Ben, si t'as pas les développeurs qui trouvent une bonne app que les gens se disent ah ça c'est cool, je vais jouer avec, son produit il n'est pas vendu. Et Microsoft peut
Ouais.
témoigner. Ils ont fait des Windows Phone, les développeurs n'ont pas embarqué. Bah, ils ont remballé leur bille et ça n'a pas
C'est le, bon, il y
fonctionné.
a aussi
Et
une
donc,
grosse.
oui.
Qu'a Apple aujourd'hui avec les Vision Pro, hein, c'est si les développeurs
Oui,
ne
bien
croient pas
sûr.
dans le
Il y a
produit, ça va être
aussi.
compliqué, quoi. Ouais,
Oui, mais il y a
c'est
aussi une
ça.
grosse part de marketing, de communication. Là, dans le cas précis, si je reprends l'histoire du jeu, là où il faut caresser le castor, le chien et tout, le mec, il fait 300 000 dollars et à un moment donné, il a dû avoir un truc, un buzz pour que les gens se jettent sur ce jeu, même s'il coûtait 2 ou 3 balles. Ça a été la même chose avec des
L'effet
apps qu'on a
d'emballement,
vues
hein.
sur les mobiles. Ouais.
Toujours,
L'Apple Vision Pro, on est au CES, les mecs, ils profitent du CES pour dire ça y est, on le sort en février, telle date et tout. Les mecs communiquent. C'est pas qu'une
Oui.
histoire d'engager des développeurs, mais je te donne raison, effectivement, Sébastien, pour les
Moi, je me rappelle
HoloLens, par exemple, de chez Microsoft.
Par exemple, moi je me rappelle, c'était au tout début, c'était l'iPod Touch, et tout le monde avait installé l'application. Je pense que c'était un brasseur qui avait fait cette application qui te faisait
La
remplir
bière.
la bière avec la mousse au-dessus, tu vois, et quand tu penchais ton téléphone, enfin pas ton téléphone, ton iPod, le niveau restait. Voilà. Tout le monde a eu cette application-là et a fait des blagues avec ce machin-là. C'était pas plus intelligent que de caresser un castor. Le truc-là, c'était pas de gagner, c'était gratuit, mais c'était une belle opération marketing, quelque part. Donc voilà, c'est bref, on va pas refaire le monde, on verra bien ce qu'il en est à un moment donné. Moi, si tout le monde peut vivre correctement, tant mieux, et les développeurs
Oui,
comme d'autres d'ailleurs. Oui,
c'est ça, mais
mais
faut pas sous-estimer, et attention, je vais ressortir la barbe, faut pas sous-estimer les communautés de dev derrière, autant on l'avait cru mort, parce qu'il y a, hein, on ne voit plus que par iOS et Android sur les téléphones, et on avait toute une série de produits complètement libres, Linux, sur les téléphones. Il y avait Ubuntu qui avait essayé de sortir des trucs et puis qu'ils ont abandonné. Il y a toute Mozilla avait sorti essayé de sortir un truc et ils ont abandonné. Et donc on se dit ok c'est fini, on n'aura jamais de Linux sur les téléphones. Ça revient en force pour le moment avec une série de projets qui sont beaucoup plus aboutis que ce qu'on avait il y a quelques années. Donc si effectivement des stores classiques sont trop contraignants pour les utilisateurs et pour les devs, je peux prédire que dans les prochaines années, on aura aussi une forme de liberté sur ce genre de
Bien sûr.
device et on paiera le prix du device réel pour avoir un téléphone libre de pouvoir installer ce qu'on a envie. Donc, le Android et iOS, ce ne sera peut-être pas un duo pour la vie. Il y aura peut-être des choses qui vont revenir dans les prochaines années. On ne mourra pas avec Android et
Alors,
iOS.
c'est évidemment tout un débat, on ne va pas le refaire ici, mais si par extension on parle des applications web, un truc qui me vient comme ça, comme une évidence, on parlait réseaux sociaux il y a quelques instants, mais Mastodon par exemple, qui est un réseau social ouvert où tu peux pas faire ce que tu veux, parce que c'est contrôlé, enfin les différents nœuds, on va pas revenir dans les détails, mais il y a du contrôle commun, mais il y a un aspect liberté, machin, etc. Tu te rends compte qu'en fait, de liberté, il n'y en a pas autant, enfin, il n'y en a pas plus que sur X aujourd'hui, avec toutes les dérives que ça peut occasionnée, hein. On est bien d'accord, mais qu'en même temps, c'est une fraction, mais une infime fraction des utilisateurs qui vont utiliser Mastodon par rapport à ceux qui utilisent X ou les autres plateformes. Mmh. Et il n'y a pas d'appel d'air, ça rentre pas. C'est pareil sur Peertube, par exemple. On met nos vidéos sur Peertube depuis à peu près 100 numéros aujourd'hui. Chaque vidéo fait à peu près 6 vues. Contre 300, 400, des fois plus, 1000 sur YouTube. On est sur un fractionnement qui est quand même assez ténu, où le grand public, entre guillemets, va vers des marques, et c'est ça la force de marketing aussi, hein, au-delà du produit, vont vers des marques qui sont une référence, sont devenues avec le temps une référence, ou voilà, ils sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement la qualité en soi, mais c'est ça que les gens, le grand public va publiciter.
Oui, attention, sur Android, c'est pas Google qui définit le marché. Sur iOS, tout à fait, c'est Apple qui vend ses devices. Sur le reste, si Samsung demain dit « je dégage Android », il dégage Android.
Oui, il faudra à ce moment-là qu'un fabricant fasse le jeu.
Si un fabricant joue le jeu en disant...
Ah, je suis d'accord.
Et attention, les fabricants chinois, et c'est, je pense, une des raisons aussi que les projets Linux sont en train de se développer à mort, les fabricants chinois essaient de se défaire des outils américains à cause des pressions américaines. Si tu as un OS alternatif totalement libre qui se développe, je ne serais absolument pas étonné que ça vienne de l'Asie.
Oui, sans doute. C'est pas.
Enfin, et nos téléphones sont quand même très fort asiatiques. Hein.
C'est quand même très très fort asiatique. Mais ils nous parlent quand même encore dans notre langue, ce qui est quand même un avantage.
Pour le moment. Ouais.
Pour le moment, ça va être difficile à configurer. Hein. Ouh là là. Et là, on va avoir besoin des devs à mort. Merci beaucoup. On va passer à la suite. On est à la lettre O. Bah oui. Encore Thierry. O comme iOS.
Bah oui.
Ah oui. On ne respecte plus rien. On ne respecte plus rien.
Mais tout fout le camp, mon bon monsieur.
Tout fout le camp. Quand c'est non, mais en fait, oui. En vrai, c'est ça. Apple qui change d'avis sur une modification controversée d'iOS.
Ouais, qui revient en arrière. Voilà, c'est pour vous dire, pour vous confirmer que tout fout le camp, hein. Les PWA, mais qu'est-ce donc ces PWA, les Progressive Web App? Vous avez déjà testé ça, vous l'avez peut-être déjà installé sur votre iPhone, vous êtes sur un site internet, vous mettez ça comme un raccourci sur votre écran d'accueil. J'aime pas cette phrase écran d'accueil parce qu'en fait on a plusieurs écrans d'accueil, hein, puisqu'on peut passer d'une page à l'autre, et en fait ça devient une app puisque certains de ces sites vous propose d'avoir des notifications, vous propose de faire des choses offline, vous propose même d'enclencher la caméra de votre smartphone. Donc c'est pas une app qui est en dur comme ça dans votre smartphone, dans votre précieux iPhone. C'est un raccourci, c'est à la fois une app, à la fois quelque chose qui a le droit de communiquer, comme je viens de le dire, avec certains aspects de votre smartphone. Et l'explication de tout ça, ce retour en arrière, c'est parce qu'en fait, avec iOS 17.4, il y avait Apple qui voulait se conformer à l'Union européenne et les règles. Ils sont pas très très chauds, hein, par rapport à tout ce que demande l'Europe, par rapport à ce qu'ils leur imposent. Il y avait entre autres justement les nouveaux règlements européens sur les marchés numériques, les DMA. Et ils sont revenus en arrière parce qu'en fait, c'est un petit peu gueulé. Alors, c'est peut-être grâce ou à cause de la communauté des développeurs, hein, cher Sébastien, mais il y a surtout aussi pas mal d'acteurs qui étaient à proposer des choses via cette facilité. Un des plus gros, on va quand même le citer, c'est Xbox Cloud Gaming, hein, de Microsoft. Il y a Nvidia aussi qui est dans la course avec GeForce Now. Il y a le gros mastodonte de l'univers du jeu qui est peut-être venu un petit peu taper sur la table pour dire à Apple que c'était une fausse bonne idée. Donc voilà, on n'a pas besoin de parler plus de cette news. Mais j'avais plutôt envie de dire, autant l'Union européenne et ses règles agacent Apple, hein, ils le disent ouvertement, autant peut-être les lobbying du monde du jeu vidéo qui sont quand même assez puissants, hein, c'est quand même une industrie énorme, eh bien, ont peut-être un poids, peut-être aussi défendu par les métiers du développement. Et donc, ils ont décidé à continuer à offrir cette possibilité d'utiliser des web apps sur les écrans d'accueil, même dans l'Union européenne. Voilà.
Alors, Sébastien, les web apps, la planche de salut des devs dans cette unité.
C'est assez pratique. C'est assez pratique, ces trucs.
Ouais, enfin, Apple a souvent été contre par le passé. Ça a toujours été une histoire d'amour, des haines entre les web apps et Apple. Là, développer une app classique au tout début d'iOS était long et pénible, et beaucoup de devs s'étaient penchés de genre, je vais faire une application pour tel média. Mais en fait, c'était juste un truc qui ouvrait un navigateur avec le site du média en responsif. Ouais. Et ouais. Ça, Apple les a pas mal dégagés. Alors, est-ce que aujourd'hui c'est le sauvetage du dev? En dev desktop, ça devient un peu plus difficile de toute façon. Donc, je te dirais que le web app, oui, c'est une forme de sauvetage du dev, clairement.
Mais pour des applications relativement simples, hein, finalement, parce que...
Tu commences à pouvoir faire des trucs très compliqués. L'HTML5 te permet même, mais c'est pas encore implémenté par tout le monde, d'accéder à du NFC. Alors clairement, NFC sur Apple, de toute façon, tu pouvais pas y toucher. Tu peux utiliser la caméra, tu peux utiliser des... Enfin, il y a plein de trucs. Tu n'as plus une telle différence entre l'accès au hardware, entre une application native et de l'HTML5. D'accord. Ça devient kiff bourrico.
À l'instar de ce qu'on fait sur le web d'ailleurs, très souvent, application cloud, il y a quand même le mot application dedans, mais pour le commun des mortels, c'est une page web, hein, enfin, c'est dans son navigateur, donc voilà.
Le sujet de Thierry m'a refait penser à un truc, et je vous engage tous, chers auditeurs, à rechercher ça vous fera votre soirée, sur YouTube, parce que c'était presque ça son titre. C'est le « Quand c'est oui » sur YouTube. Allez chercher. C'est la chanson du consentement.
La chanson du consentement. Quand c'est oui, c'est oui. Ça me dit
c'est
quelque
mignon.
Chose.
D'accord.
Voilà. Vous avez passé un bon moment.
Allez, si vous la retrouvez, vous pouvez même la mettre en commentaire dessous cette vidéo sur YouTube. Nous sommes aussi sur YouTube. D'accord. N'hésitez pas n'hésitez pas à la partager avec tout le monde. On a encore une lettre dans notre abécédaire. La voici, la voilou. Une vraie lettre O cette fois, comme OS. Voilà, quelqu'un qui fait bien son travail. C'est Seb.
Il est développeur, lui. C'est pour ça, peut-être.
Il n'est pas
suisse.
Écoute, à 16 et 17 ans, je n'avais que des pulls d'anarchiste.
Oui, et t'avais des cheveux aussi.
Les cheveux longs, les cheveux longs, la barbe, et tout qui était.
Et t'avais le sac, la besace militaire en bandoulière pour mettre tes cours aussi dedans. J'avais ça avec un grand A, marqué au fait ou marqueur sur la pochette. Non, moi j'avais ça.
On m'arrêtait pour avoir des feuilles.
On parle d'OS, de Linux qui progresse magnifiquement. 4% de part de marché, youpi, c'est la gloire. Ouais. Je rigole.
Arrête. Bon. Oui, alors c'est la gloire. Alors, mais Linux ne met pas un bal de. Personne ne fait de la promo
c'est
Linux.
Pas faux.
Mais,
c'est pas faux.
Hein, donc c'est 4% avec 0% de marketing.
Moi, c'est souvent ce que je dis quand on dit ouais, ça fait pas beaucoup d'audience, hein, les technos. Ouais, mais on n'a pas la puissance d'un gros média avec des antennes.
Et on est le Linux du podcast. Voilà, ouais. Ça c'est fait.
C'est un peu ça. Les pingouins.
Libre. Alors effectivement, il y a quand même pas mal de constructeurs maintenant qui de laptops qui commencent à sortir des versions sous Linux. Hein. Fedora a eu un partenariat avec Lenovo depuis quelques années. Et c'est pas les seuls. Et il commence même à y avoir des constructeurs de laptops qui ne font que du Linux.
Il me semble que Dell faisait
aussi. Oui, mais il y a System 76, il y en a plein d'autres qui ne font que des laptops qui font.
C'est juste.
Que du Linux, donc ça monte. Alors pourquoi je sors le c'est passé à 4%, parce que voilà, effectivement 4% n'est pas non plus extraordinaire, sauf que il y a 6 mois on était à 3%, donc on a pris 25% en 6 mois, pour un truc avec une aussi faible part de marché, c'est quand même beaucoup.
Ce serait quoi, sachant... qu'est-ce qui a généré ça, à ton avis? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Enfin...
Alors, il y a plusieurs explications, mais malheureusement, on n'a pas pu aller interviewer tous ceux qui sont passés sous Linux, pour... parce que ça fait beaucoup de gens, pour passer aux 4%. Il y a les explications rationnelles, c'est Windows 11, c'est pas l'éclate, parce que la plupart des gens sont bloqués, ils savent pas l'installer. Et donc, ça se pose quelques questions, le hardware bloque, et donc, on est sur des taux au-dessus d'un Windows 7, 8, et XP, souvent. Etc. Hein, Linux dépasse en market share.
Quand on recycle une machine, c'est vers Linux. Hein. C'est,
inévitablement, c'est quand on est bloqué, le constructeur te dit je veux plus te mettre à jour. J'ai eu ça sur un vieux MacBook. À un moment, Apple m'a dit ton MacBook, tu le jettes, c'est un presse-papier. Je dis c'est mon MacBook, je t'emmerde. Hein, c'était un très vieux parce qu'on en avait eu besoin pour compiler des applications sur iOS. Hein. J'ai foutu une Fedora dessus et il fonctionne admirablement bien. Et j'ai toujours la dernière version, les derniers tools. Donc c'est juste une décision d'obsolescence de mon matériel. Sur lequel je ne suis pas d'accord, je n'ai pas de raison, il fonctionne bien.
Il y a des alternatives pour ça, si jamais, pour OS X. Hein.
Oui,
j'en ai fait des
coups de marteau.
Si jamais. Ça marche.
et alors, en même temps, dans le même stat, c'est amusant de voir que y a un autre OS qui prend la soupe. Et alors que Linux remonte, par rapport à il y a un an, OS X, ils ont perdu 6%. Ils sont plus qu'à 16%. Ils étaient à 22-23. OS X est en train de disparaître tout doucement. Ouais. Enfin, on va disparaître, on est d'accord, ils sont encore à 16%, c'est pas ça, mais quand tu prends quand tu as perdu 6%, perdu 6% en un an, ça pique quand même. Et Chrome OS, lui, est toujours pas très très haut non plus. Donc lui, il monte pas, c'est 2-3%. Alors qu'eux, ils font un marketing de fou. Donc il y a quand même une certaine forme de force desktop aujourd'hui. C'est pour ça que soit dans le titre, je dis soyez pas le dernier. Oui, les desktops sous Linux, ça commence quand même à devenir vachement vachement sympa. Si c'est pour avant, il y a 10 ans, on pouvait dire oui, mais mon application machin, elle tourne pas sous Linux. Oui, mais maintenant, tu n'utilises plus d'application machin. Tu utilises un navigateur web, un client mail, et puis c'est souvent. Tout.
Sauf sur des applications métiers un peu spécifiques, il y a des alternatives. Mais quand tu n'as pas été entraîné sur... Je pense, par exemple, la version GIMP versus Photoshop. Si tu as été formé sur... Ça fonctionne très bien, mais si tu as été formé sur Photoshop, je peux te dire que c'est galère, quoi.
Madame Pichou, elle écrit un document sur un LibreOffice et elle va sur Internet, et puis c'est tout. C'était d'où le succès du Chrome.
Mais t'as raison, il y a quelques temps, il n'y avait pas d'éditeur vidéo, par exemple, sous Linux, ou très, très basique. Là, maintenant, il commence à y avoir des choses vraiment bien foutues. Pareil dans le domaine de l'audio, avec des plugins qui fonctionnent bien. Enfin, voilà, des écosystèmes construits et qui vont dans le bon sens et qui ne sont pas complètement ardus et complètement à côté de la plaque. On a eu des boubouilles sous Linux dans ce domaine-là. Mais par ailleurs, comme tu le dis, pour Madame Michu, ou Monsieur Michu d'ailleurs, ne soyons pas sexistes. Ça fonctionne bien, relever ses mails, aller sur le web, ça bouffe pas beaucoup de ressources, donc même une vieille machine peut encore faire son temps, quoi. Attendez, pas tous en même temps.
Alors, c'est tellement vrai. Je prends le lit.
Vas-y,
Je disais, c'est tellement vrai qu'il y a même une alternative pour vos vieilles tablettes sur Android, parce que j'ai jamais compris l'obsolescence programmée, parce que là, tu citais Sébastien Chrome OS. Il faut savoir qu'il y a Chrome OS qui s'arrête suivant le type de machine, là où en fait on fait juste tourner très schématiquement, je raccourcis, un navigateur. Je trouve toujours ça un peu mesquin de se dire non, tu peux pas aller sur la nouvelle version de Chrome OS, et tant pis. Et c'est un peu la même chose avec Android. Il y a Lineage qui est une belle alternative pour justement redonner une seconde vie à vos tablettes Android. C'est assez sympa.
Ces obsolescences qui sont souvent liées au fait que le hardware n'a peut-être pas été étudié pour pouvoir faire évoluer, patati patata. on connaît la musique, mais c'est vrai aussi dans le domaine des smart TV, par exemple. Hein, oui. T'achètes ta télé, 3 ans après, t'as plus d'applications qui tournent dessus, parce que, voilà. Sauf que, ils ont quand même fait un progrès de ce côté-là. Je ne sais plus quelle marque c'est, je me demande si c'est pas LG ou Samsung, où ils annoncent qu'ils vont maintenir, ils maintiennent en tout cas la possibilité de faire un upgrade de l'OS pendant 3 ans, 6 ans, je ne sais plus. Enfin, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, là, il y a aussi une évolution de ce côté-là, on va dire. Donc,
ta télé, tu l'utilises comme un grand écran, et tu mets un truc en HDMI dessus. Il y a un dernier point
qui
était
pas dans
l'article.
Oui, on est d'accord, mais Madame Michu ne met pas de truc en HDMI dessus comme ça. Tu vois, on allume, ça marche.
C'est
tout.
Madame Michu.
Ouais, Madame Michu,
pour Madame Michu, elle a un ordinateur, elle a une télé, elle a beaucoup de choses, je trouve.
Oui, sûr, c'est vrai, une chance. Attendez les gars, on a une chance énorme, c'est que Madame Michu, elle ne nous écoute pas.
C'est probable. Et encore, si elle nous écoute, on la salue.
Monsieur Michu, peut-être son fils ou sa fille nous écoute peut-être, ça c'est possible. Ça, voilà.
Mais là, un point qui explique l'augmentation, à mon avis aussi, et si c'est le cas, alors on en reparlera dans 6 mois, dans un an, etc. C'est de nouveau, comme je l'ai dit, il y a 2 sujets. Attention, les Chinois.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai.
Oui,
les Chinois sont bloqués par tous les produits américains et ils sont en train de se préparer. Attention, les Chinois.
Je vais changer le titre de cet épisode. Je vais dire attention, les Chinois.
Attention, les Chinois.
Ça va nous aider à nous faire connaître. Ça, on va
Madame Michu, faites attention aux Chinois.
Bon, si vous le voulez bien, parce que là, on arrive au bout des news, hein, on a un peu tiré en longueur. Il faut être clair, précis, concis. Le dossier, c'est maintenant. Comment j'achète mon premier bitcoin? C'est le titre de société. Déjà, c'est ce que vous avez des sous si vous achetez un bitcoin.
C'est ça.
On va dire une fraction de bitcoin, en tout cas une crypto-monnaie de manière générale, parce que c'est vrai que, bon, ça revient, c'est un peu cyclique, on en parlait hein, avant d'enregistrer cet épisode. Il y a différentes phases d'acceptation du principe de cette crypto-monnaie, de cette monnaie virtuelle versus la monnaie fiat que nous utilisons, vous et moi, tous les jours pour acheter notre pain. Donc voilà, on est peut-être dans une époque, et c'est la proposition de Sébastien et Thierry cette semaine, peut-être au bon moment pour justement expliquer, peut-être pas à la même Michu, mais à ses enfants qui nous écoutent, comment on achète des crypto-monnaies. On commence avec Thierry peut-être pour parler des justement de l'actualité, puisque il semblerait que le Bitcoin explose pour le moment. Il y a qu'un regain d'intérêt, intérêt entre guillemets, pour le Bitcoin.
Exactement. Et si vous regardez la télévision sur les chaînes nationales, ça passe pas vraiment inaperçu, effectivement, cette remontée. Alors, tout d'abord, un petit disclaimer. Ce qu'on vous partage ici, ce sont pas des conseils financiers. On n'est pas maqué avec une marque ou quoi que ce soit. On va juste un petit peu vulgariser, effectivement, tout ça sur l'idée qu'a eu Sébastien de se dire, mais un peu comme on pourrait se dire une fois, ben, comment on installe Linux sur un vieil ordinateur, ben, comment on se lance si on s'intéresse à effectivement acheter...
Il a dit
oui,
une
voilà.
Fois.
Une fois. Hop là. Je peux faire l'alsacien aussi. Hop là. Et donc du coup, c'est parce que vous déteignez sur moi. C'est pour ça. Voilà. Alors, pourquoi tout d'un coup il y a ce regain? Je pourrais être mesquin puisque je suis suisse et puis que effectivement c'est le monde de la banque et de la finance. Tout ça, c'est à cause justement des grands prédateurs de la finance. C'est à cause de BlackRock tout ça, parce qu'effectivement il y a une remontée, où on pourrait utiliser un terme un peu pro. Il y a un mouvement haussier sur la valeur du Bitcoin actuellement. Certains se plaisent à dire qu'on va connaître un record ou qu'on va en dépasser plusieurs de ces records, puisque on a eu là il y a quelques jours une valeur au Bitcoin qui dépassait les 60 000 $, même un peu plus. Je vais pas vous donner les chiffres exacts, il y a assez d'outils en ligne pour le faire.
Ça évolue tout le temps de toute façon.
Mais voilà, ça évolue tout le temps, ça se suit tout le temps. Mais le regain en fait est ce mouvement haussier, bah, ils vont de pair. Le regain, c'est parce qu'en fait, beaucoup de gens maintenant, monsieur, madame, tout le monde, monsieur et madame Michu, par exemple, se disent, et pourquoi pas m'acheter des bitcoins? Pourquoi je me mettrais pas non plus à devenir riche, ou en tout cas d'imaginer de le devenir? Alors, pourquoi je vous parle de BlackRock? Parce que BlackRock a été un des premiers à demander justement ce qu'on appelle dans le métier des ETF, des Exchange Trade Facility, ou j'ai plus le terme exact. En fait, pour vous simplifier la chose, c'est un alignement sur la valeur du Bitcoin, mais sans devoir en posséder. En gros, on peut faire mumuse à la bourse en se disant, eh bien, je vais investir sur une matière première, sur une valeur, mais je suis pas obligé d'en acheter. Un ETF qui est assez connu, c'est l'or. On peut acheter l'or, mais il faut savoir qu'effectivement, on peut s'aligner sur le prix de l'or, on peut s'aligner sur d'autres valeurs. Alors, ça se fait pas si simplement, hein. Il faut avoir l'accord, effectivement, de commission. En l'occurrence, ici, c'est la SEC, hein. C'est l'autorité américaine qui régit les marchés financiers. Pour ce territoire, qui dit, ben voilà, vous avez les reins assez solides ou pas pour pouvoir proposer un nouveau produit à votre catalogue qui va s'aligner sur une valeur sans forcément acheter physiquement celle-ci. C'est assez fou parce que le Bitcoin, pour se rappeler d'où il vient, la personne ou le groupe de personnes qui avait imaginé cette toute première monnaie crypto alignée effectivement sur de la blockchain avait dit ou avait laissé sous-entendre que ça serait une monnaie qui ne bougerait pas justement avec l'influence du marché, qui ne serait pas, comment dire, influencée par de la spéculation, par toutes sortes de leviers qu'on peut avoir dans des marchés bien physiques. Quand vous achetez du blé, quand vous achetez du gaz, quand vous achetez peut-être même des métaux précieux, eh bien on est dépendant de toutes sortes d'éléments qui peuvent influencer justement ces valeurs, monter, descendre, faire gagner ou faire perdre. Et c'est assez fou de savoir que cet alignement justement sur la base des ETF eh bien fait réagir la valeur proprement dite de référence, en l'occurrence le Bitcoin. Depuis 6 mois que je suis effectivement la valeur du Bitcoin, on voit vraiment, si vous prenez n'importe quel site internet, vous ouvrez le range pour voir effectivement la courbe, vous verrez un mouvement qui ne cesse de monter. Certains se plaisent à dire effectivement que c'est pas fini, ça va continuer. Mais encore une fois, voilà, c'est assez surprenant. Moi, je suis le premier surpris parce que on parlait hors caméra qu'on se disait, bah, tiens, à l'époque, il y avait 2-3 personnes autour de nous assez cinglées qui nous disaient, il faut acheter du Bitcoin et tout. C'était compliqué. On savait pas ce que ça représentait. On savait pas ce que ça symbolisait. Là, maintenant, on a un regain d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ce mouvement haussier, mais qui pensent aussi un peu comme on pourrait jouer à la loterie, de se dire, pourquoi pas moi rêver de devenir riche avec ça? Voilà.
Ouais, mais en même temps, il faut bien le dire, Thierry, ce n'est pas non plus un investissement en bon père de famille. C'est ce que tu vas nous expliquer, Sébastien.
Oui, alors c'est un peu une vision dans la plupart des gouvernements européens et occidentaux. Alors pourquoi cette phrase est importante? C'est-à-dire que si vous achetez une action en bourse, voilà, n'importe quelle action, si vous la gardez pendant un certain temps, quand vous allez revendre cette action, en tout cas en Belgique, hein, mais d'autres marchés européens sont équivalents, mais en Belgique, vous l'avez gardée pendant suffisamment longtemps, eh bien, vous n'allez pas être taxé sur une plus-value. Parce que, un bon père de famille, vous avez acheté des actions, d'une grande action, en disant, ben voilà, je mets pas toutes mes billes partout, et donc, là-dessus, on n'est pas taxé sur la plus-value. Je pense qu'on est une des seules nations à faire ça, en Belgique.
Aussi, ouais.
Et par contre, la crypto qui est aussi, tu vois, tu l'achètes, tu la gardes pendant quelques années, tu vas la revendre, et bien la Belgique, eux, là, ils ont décidé, non, ça, c'est pas du bon père de famille, ça, c'est du spéculatif, qui est pas plus ou moins spéculatif qu'une action. Mais voilà, la Belgique a tranché là-dessus, et c'est l'avis qui est de la plus, qui est équivalent dans la plupart des autres pays européens. Donc, vous nous écoutez en France, vous allez gagner de l'argent sur de la crypto. C'est pas un investissement de bon père de famille, donc si vous perdez de l'argent, tant pis pour vos dents. Si vous gagnez de l'argent, vous allez payer des impôts dessus. Donc ouais. Ça doit être déclaré. Si vous faites de la, si vous faites de gagner beaucoup d'argent avec de la crypto, même un euro, vous avez intérêt effectivement à en parler soit à votre comptable, soit à le mettre dans vos déclarations, parce que vous allez devoir payer des impôts sur ce que vous avez gagné. C'est un produit considéré comme un produit spéculatif, et donc même si ce n'est pas dans sa création un produit spéculatif, c'est aujourd'hui taxé comme tel dans les marchés, et ce qui est un peu une forme d'acceptation du coup par le gouvernement, parce que à partir du moment où tu taxes quelque chose, c'est que tu l'autorises. Si on taxait la drogue, eh bien effectivement, oui, elle serait autorisée. Et aujourd'hui, voilà, c'est bien un des points. Donc il y a énormément de régulations qui arrivent, qui ont été mises en place dans les différents pays. Du coup, il faut aussi se choisir le bon échange qui respecte les régulations. Donc, il y en a un certain nombre que Thierry pourra, sur lequel il pourra revenir, mais il y a des noms qui ont plutôt tendance à aller contre les gouvernements, en se disant ben non, c'est nous qui allons de toute façon faire la nouvelle loi de la finance mondiale dans le futur, donc on s'assied dessus. Je prends un cas d'un Binance. D'autres,
on parle des plateformes d'échange, donc des plateformes qui vont te permettre d'acheter des crypto-monnaies, de les revendre, donc de faire de l'échange. Oui.
Oui, je ne vais pas tout spoiler là-dessus, mais juste dire.
Non, mais c'est parce que.
Mais les plateformes d'échange, oui. Et donc, il y en a qui. T'as vraiment les deux écoles. T'as la première école où on se dit, nous, on s'en fout des gouvernements et un peu, on est dans un nouveau monde libre. T'en as d'autres qui sont très fortement liés au système traditionnel et sur lequel, là, effectivement, il y a une forme de régulation. Ils suivent surtout toutes les régulations et ils essayent de ne pas avoir d'amende. Ce qui n'est pas le cas du premier cité.
D'accord. Donc je passe la main. J'étais distrait parce que je regardais le Crypto News et je regardais les cotations et je voyais c'est des trucs qui augmentent et des trucs qui baissent. Bref, Thierry,
on parlait de plateforme.
Oui, vas-y.
Il y a juste un petit point que je dois corriger, c'est attention sur les ETF. On les possède, nous on ne les possède pas réellement, et BlackRock doit les acheter. Donc sur le marché, il y a quand même un pompage énorme, et avec tous les ETF qui ont été lancés, il n'y a pas que BlackRock qui en a lancé un début d'année.
Non, c'est pas un des premiers.
C'est un des premiers, mais il y en a eu plusieurs, et donc il y a un flux de Bitcoin qui va vers ces sociétés qui ont fait des ETF qui est largement supérieur à ce qu'on est aujourd'hui capable de miner. Donc c'est du coup offre loi offre demande là il y a plus d'offres, il y a beaucoup de demandes.
Oui. Ok. Thierry, puisqu'on en parle, les plateformes d'échange, parce que c'est quand même par là que ça passe. C'est le titre du dossier. Oui. Comment est-ce qu'on achète mon premier bitcoin? Ça passe par là déjà.
Oui.
T'as déjà eu l'occasion.
Juste un Suisse qui l'achète le premier. Les riches, c'est Suisse.
Pour l'acheter. Ben oui, 65 000 euros. Pim. Et t'as un bitcoin. C'est super. Là, tu mets dans un cadre ton bitcoin. Parce que...
Ouais, la réponse pour être simple, venez en Suisse. Vous voulez acheter des bitcoins, venez en Suisse. Non, alors
il y a des plateformes d'échange.
Vous avez des distributeurs.
Oui, on a des distributeurs. Oui.
Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est le Bitcoin en Suisse, c'est un sujet à part. On fera un dossier spécial pour ça. On achètera du chocolat.
Mais Sébastien a raison. On peut s'acheter des Bitcoins en Suisse à des distributeurs. Donc, vous prenez votre carte, vous allez. Et moi, j'ai jamais osé le faire parce qu'il faut quand même un temps d'attente. Il y a quand même un truc un peu bizarre. Bon, on en parlera une autre fois si vous voulez. Mais un peu comme un ATM, hein, pour utiliser un terme bien américain, vous pouvez retirer des bitcoins avec votre carte de paiement. Alors, il y a effectivement
sont changés en euros, qui eux-mêmes sont changés en roubles, qui sont eux-mêmes changés
oui,
en
qui en passent par tout sort de pays. Voilà.
Et puis finalement, vous avez une fraction de ce que vous aviez acheté quelque part.
De bitcoin.
Donc, le plus courant, quand on n'a pas de distributeur et qu'on vit pas en Suisse, c'est quand même la plateforme d'échange.
Voilà, vous avez cité Binance, et il y a Coinbase, dans les plus grands noms, la liste serait beaucoup plus longue, hein, mais effectivement, c'est les plateformes auxquelles on peut penser et puis s'y attaquer, puisqu'effectivement, eux proposent, sous la forme d'applications mobiles, mais aussi de sites internet, une approche, on va dire, simplifiée, puisque vous pouvez lâcher votre carte de crédit, vous pouvez faire du virement bancaire,
en gros,
vous pouvez déposer cet argent.
Je schématise très fort, c'est un peu si tu ouvres ton compte PayPal, par exemple, on te demande ce genre d'informations, quoi. C'est pour
ton compte en banque
et tu vas, voilà, c'est un peu ça.
Voilà. Il faut prouver patte blanche, hein, donc vous déposez aussi un papier, que ce soit un passeport, il y a un test, effectivement, comment on appelle ça, de test du visage, enfin de un petit peu de reconnaissance faciale, voilà. Et voilà, pour pouvoir rattacher ce compte à une personne physique existante. Faut pas se leurrer, il y a des avantages, ils sont nombreux, c'est-à-dire que c'est simple comme chou, puisqu'il suffit, entre guillemets, de passer par ces étapes, ouvrir le compte, mettre un peu d'argent, et puis faire mumuse avec son smartphone ou son ordinateur. Mais l'inconvénient, c'est que tout ça est sur la plateforme. Une des plateformes que j'ai oublié de citer, c'est Kraken, par exemple. Et je ne vais pas citer les autres, mais certaines ont fait parler d'elles parce qu'effectivement, certaines ont coulé ou disparu parce qu'il y a eu soit des problèmes de sécurité, soit des malversations, parce que physiquement, vous n'avez pas ce patrimoine. Vous misez, vous ouvrez un compte, c'est un peu comme si tout d'un coup le banquier en ligne partait avec la caisse, vous n'avez pas physiquement cette monnaie.
Et c'est pas garanti par l'État, c'est pas garanti, il n'y a personne qui garantit, c'est la somme déposée.
Alors, ce sont des acteurs qui sont là sur la place depuis assez longtemps pour pouvoir prouver que ça marche, que c'est vraiment simple. Il y a une alternative qui est venue assez vite avec un acteur assez innovant qui est Revolut, puisque Revolut a été un des premiers à proposer effectivement une carte de paiement qu'on recharge. Ils sont présents de plus en plus dans pas mal de pays avec un IBAN local. Donc vous chargez votre compte et vous avez l'équivalent d'une carte Visa ou une Mastercard sans les frais quand vous voyagez. Donc vous pouvez aussi passer d'une monnaie à une autre. Si vous voyagez d'un pays à un autre, profitez d'avoir des taux de change assez sympas pour préparer un voyage, par exemple en dollars. Et bien maintenant, on peut également faire ce genre de choses en passant ce patrimoine, cet apport financier dans une crypto. En l'occurrence, là, ils ont une liste qui est peut-être un peu plus limitée que ce qu'on va trouver sur un Kraken, sur un Coinbase ou sur un Binance. Mais c'est là aussi très simple d'utilisation et à tout moment, vous pouvez rebalancer votre patrimoine de Coinbase, de crypto sur votre compte en euros, en francs suisses ou en dollars. On a même un acteur suisse qui fait ça avec la marque You qui vient de Swissquote. Toutes les deux proposent ça et on est vraiment sur la vulgarisation, la simplicité et tout. Mais ça aussi dans un mobile. Ça, c'est
J'imagine qu'à chaque transaction, il y a des frais.
Bien sûr.
Parce que cette boîte, elles doivent bien vivre de quelque chose. Et donc, c'est là qu'elles se prennent du pognon. C'est quand tu revends ou que tu échanges des monnaies, chaque fois, il y a un pourcentage de frais qui est déduit de
les frais de transaction existent partout et l'alternative à tout ça, ou alors si on revient dans le temps, à l'époque c'était un peu plus compliqué. Moi je me rappelle avoir miné par exemple du Litecoin. À l'époque on arrivait à faire tourner ça sur un Raspberry Pi, ça consommait beaucoup moins d'énergie et c'était beaucoup moins complexe que la blockchain. Ça rapportait aussi un peu moins, voilà. Mais le Litecoin fait toujours partie des cryptos qu'on peut trouver sur ces différentes plateformes. Et si vous voulez aller sur l'alternative de vous dire je vais acheter de la crypto, vous allez devoir faire du peer-to-peer, vous allez devoir fondamentalement passer par d'autres moyens qui sont peut-être moins faciles. C'est là où monsieur et madame Michou vont être un petit peu, comment dire, freinés dans l'idée de se dire, ouais, mais j'envoie ça, je dois mettre une clé, je dois
Mais
avoir un
c'est ça,
pass,
parce
je
qu'on en avait parlé.
c'est, ouais.
Rappelez-vous, il y en a quelques hors-série d'ailleurs, hein, avec notre ami Sébastien, Sébastien 3. qui n'a pas de cheveux, celui-là. Vous y retrouvez ça dans nos archives sans grande difficulté. On avait parlé de tout ça, les fameuses clés Ledger. On avait fait
Oui.
quelques hors-séries
Oui.
là-dessus aussi, d'ailleurs. Il me semble que c'est Xavier qui s'était fendu d'un hors-série là-dessus, parce que lui-même avait fait l'acquisition d'une de ces clés qui permettent de stocker donc des crypto-monnaies. Tout ça n'est pas très simple à mettre en œuvre. Hein, il faut être honnête. Il faut.
Non, et puis là, j'explique pas l'étape obligatoire, c'est que vous avez de la fiat, enfin de la
La
monnaie
monnaie.
comme en euros, en francs suisses, il va falloir à un moment donné la transformer en crypto, il va
C'est ça.
falloir acheter cette crypto, puis après, vous allez pouvoir soit effectivement déposer cette crypto sur un wallet, donc vous collectionnez en fait le livre comptable qui prouve qu'à un moment T, vous avez effectivement acheté pour tant et tant d'euros. Mais si par exemple vous décidez d'échanger cette crypto avec quelqu'un d'autre, et eh bien voilà, les transactions. Alors là aussi, il existe maintenant des outils pour un petit peu plus se faciliter. Mais à l'époque, je me rappelle avoir fait des choses en ligne de commande sur un système Unix pour pouvoir à la fois traiter comment on appelle ça, mon minage, mais aussi récupérer effectivement le pécule de ce travail ou simplement le trader sur du peer-to-peer avec d'autres utilisateurs.
Ça nous éloigne un petit peu de l'idée de faire un truc simple,
Ouais.
soyons clairs. Et donc l'idée de boursicoter entre guillemets, parce que on peut le voir comme ça aussi, hein, sur une plateforme d'échange avec de petites sommes, sans trop se prendre la tête, etc. C'est vers ça qu'on va aller
Variez
plutôt, nous.
les plateformes. Ne
Voilà, c'est
mettez
ça.
pas. Un des conseils qu'on
Oui,
peut
c'est ça. En
partager qui est
plus
évident,
de
mettez pas
peut-être de
tous vos œufs
varier
dans un même panier.
Varier les cryptos, varier les plateformes et essayer de diversifier l'ensemble du paysage. Est-ce que tout ça, Sébastien, qui s'arrache déjà les cheveux,
Oui.
est-ce que ça va nous
Alors,
rendre tous riches ou pas?
excellente question. Merci de l'avoir posée.
À la semaine
Merci de
prochaine.
l'avoir merci de l'avoir écrit.
Voilà. Tu casses tout, Marc. Juste sur les échanges, parce que c'était touffu. Si vous avez jamais rien acheté, Revolut, c'est super facile, ça se fait en 2 minutes et vous avez un compte belge ou français ou autre. C'est des licences européennes. Les mecs sont basés en Europe géographique, ils sont en Angleterre. Donc là, on peut encore facilement prendre le bateau pour aller lui péter les dents s'il y a un problème. Donc ça, c'est très européen.
SPY, ça s'écrit YUH, c'est le petit nouveau de SwissPort. C'est
On t'entend super
aussi
mal,
simple
le
que.
coup. Ah, voilà, ça se
Voilà.
décoince. Non, ton
C'est
son est un petit
simple
peu étouffé.
que Revolut, mais c'est suisse. Voilà,
Ouais.
ça vaut la peine de le tester.
Le deuxième, un petit peu plus compliqué, c'est Coinbase. Là, c'est américain, mais ça se fait aussi par des transferts sur des comptes en Lituanie, de mémoire. Donc là, c'est comme un transfert de votre banque, vous transférez de
Oui.
l'argent, puis vous pouvez aller acheter ce que vous
Ça,
voulez.
je me rappelle
Vous
ça.
pouvez, ils ont 2 versions. Ils ont une version Madame Michu, assez facile, j'achète, je vends, et une version pro, qui, là, quand même, on est sur des outils plus type bourse, et Binance, qui est celui où on va avoir le plus de crypto, le plus de probabilité que ce qu'on y achète, on le perde, parce qu'ils ont plein de trucs qui sont, voilà, des petits projets. Ils ont tous les gros
Il y en a
projets
qui...
aussi, et là, c'est vachement plus compliqué.
Là, que vous n'avez pas cité, moi je l'avais installé au moment où on a commencé à utiliser Brave, le navigateur Brave, qui permet aussi de comptabiliser une crypto-monnaie qui est le BAT, le Basic Attention Token. Et donc il fallait un compte sur une plateforme, et là c'était Uphold qui était suggéré. Donc, du coup, coup j'ai ouvert un compte là. Je vois avec émotion que le, justement, on parlait de cette crypto, le BAT en off, et je vois qu'on a une, sur une tendance haussière de 7,7% pour l'instant, et que donc je suis repassé au-dessus de la barre des 100 euros. Je suis à 140 euros, je suis tout content, je vends.
Mais alors allez voir, et c'est ça va être la suite dans ma réponse. Allez voir sur Netflix Trust No One, c'est un documentaire sur l'exchange de Quadriga, qui effectivement a été romanisé, donc on a un joli truc, mais c'est très réel. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent, est-ce que ça nous rendra tous riches? Non, certainement pas. Est-ce que quelqu'un va gagner un petit peu d'argent? C'est possible. Est-ce que la crypto va encore monter? Personne ne peut le prédire. J'ai mis des liens. Il y en a un qui est, c'est des trucs habituels, et pour moi c'est un peu proche du charlatanisme. Donc c'est pas parce qu'on met des liens forcément à chaque fois que dans le contenu, on y croit.
Ce sont des sources, ce sont des sources, on n'en parle pas, c'est pas des suggestions, c'est aucune garantie derrière. Oui.
Et donc ils font une prédiction où ils disent, en 2026, il vaudra entre 186 000 et 219 000 dollars, et si on va jusqu'en 2050, il vaudra entre 4 et 5 millions de dollars. C'est purement spéculatif. Il n'y a rien qui peut nous le prouver. Les performances passées ne sont pas les performances futures de tous ces actifs. La seule chose qu'on peut faire, c'est je trouve l'aspect macroéconomique est très intéressant. Effectivement, Marc le disait au début, c'est une techno, comme beaucoup d'autres technos, le marché a eu tendance d'abord à le combattre, puis à s'en moquer, et à un moment à l'accepter. Ça a été la même chose avec le dot-com, et puis à un moment il y a eu plein de pognons qui sont arrivés, et puis c'est un truc qui a éclaté, et puis qui est reparti, et qui maintenant, d'une certaine manière, domine le monde. Et c'est ce point-là que j'ai tendance moi un petit peu à voir dans la crypto, c'est que ça résout des problèmes. Ça résout des problèmes de flux financiers aujourd'hui, parce que on peut facilement échanger une monnaie fiat en Belgique, l'envoyer en Argentine en Bitcoin, ça va être transféré en 2 minutes, et le gars peut le retransférer dans une monnaie fiat, et il a pas donné de l'argent à toutes les banques, tous les intermédiaires.
Il y a pas juste de transfert, des frais de transaction,
il y a juste, mais qui sont minimes.
Moindre.
Tu vas pouvoir transférer.
C'est pas taxé. Oui, c'est ça.
Oui. Oui, tu vas pouvoir transférer des sommes colossales avec un frais qui est souvent minime par rapport à ce que tu aurais en frais bancaires. Et donc, ça résout pas mal de choses. Ça résout aussi la dépendance à un gouvernement. À l'époque, il y a quelques centaines d'années, l'argent ne dépendait pas des gouvernements. C'était des grandes familles, les banquiers, hein, comme les de Médicis et compagnie. C'était des familles de banquiers. Oui. Et donc ici, on est sur une monnaie d'échange qui, enfin un standard d'échange, c'est comme si s'échangeait des actions de Nvidia ou Apple. Hein. Finalement, on leur donne juste la valeur et on s'échange ses pièces. C'est la valeur qu'on veut bien lui donner, et effectivement, elle n'appartient plus, elle n'est pas contrôlée par un État. Quoique, les États contrôlent en partie, parce que pour pouvoir le miner, il faut de l'électricité, il faut des machines, et aujourd'hui c'est majoritairement contrôlé par les Américains, alors qu'il y a peu de temps c'était contrôlé par les Chinois. Ouais. Donc, est-ce que ça va nous rendre tous riches? Non. Est-ce que ça va changer l'échiquier politique international? Ça aura un impact inéluctable sur certains échanges, ça j'en suis certain, entre certains pays, parce que il y a depuis longtemps une hégémonie du dollar, et tous les pays ne sont plus prêts aujourd'hui à garder des réserves que de dollars, à s'aligner toujours sur le fameux dollar, etc., etc.
La géopolitique a explosé dans tous les sens, et donc on voit bien que ce n'est plus, enfin, tout n'est plus comme aussi central que ça ne l'était il y a encore.
C'est plus aussi facile qu'avant. Et donc, il y a une place pour ce genre de projet, et pas que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un projet parmi d'autres qui a été juste à l'ancêtre, le dinosaure du truc, que tout le monde connaît. Il y en a des milliers, et dans la plupart,
C'est ça qu'il faut celui qui a été médiatisé, en fait. C'est le premier à avoir été médiatisé. C'est le seul
que tout le monde connaît.
Et c'est celui où tu dis Bitcoin. Quand tu parles de crypto-monnaie, les gens te disent pourquoi tu dis crypto-monnaie, pourquoi tu dis pas Bitcoin, quoi. En gros, c'est un peu ça. Hein. C'est devenu une marque. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, évidemment. On en avait déjà parlé, d'ailleurs, dans d'autres hors-série avec toi, hein, Sébastien.
Oui, on en a parlé de quelques-unes, d'ailleurs.
Parce que c'était des crypto-monnaies, mais liées à la blockchain. Enfin, c'était le principe, forcément. La blockchain, mais pas. C'était des projets qui étaient liés derrière, et de différentes sortes, comme l'échange de fichiers, l'échange de données, etc., qui étaient sur la blockchain et qui permettaient comme ça de faire fructifier une monnaie parallèlement au principe.
J'ai un tout dernier point là-dessus, parce qu'après, on ne va pas faire une heure et demie sur la crypto, on n'était pas là pour ça. C'est que c'est très amusant, ça intéresse toujours les médias quand ça monte et quand ça descend très fort, et entre les deux. Ça intéresse plus personne. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Quand plus personne n'en parle. Faut pas acheter la news. Ici, on est dans la news. En général, on est trop tard. Et peut-être pas. Ça, personne ne peut vous le garantir. C'est amusant d'un point de vue financier. C'est très différent. C'est-à-dire que les Américains sont toujours en train de se dire ça va dépasser l'ATH, donc le niveau le plus haut. Et on en est très proche. Hein. On est à quelques centaines de dollars, peut-être que d'ici à ce que vous avez vu le truc, ça a remonté, ça a dépassé la plus haute valeur en dollars. Sauf que le monde ne tourne pas qu'en dollars. Pour les Européens, ça a déjà dépassé la valeur maximale. Et pour tous les autres pays du monde, ça l'a déjà dépassé aussi. C'est juste la valeur en dollars qui n'a pas été dépassée aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Mais en euros, ça a déjà été fait. Donc voilà, il y a un biais aujourd'hui dans les médias et dans les sites en disant, mais on compare le bitcoin au dollar.
Mais t'as raison, on va parler quand ça grimpe beaucoup, ben là c'est déjà trop tard pour acheter, la plupart du temps, ou quand ça se casse la figure, ben là c'est trop tard pour vendre.
C'est trop tard pour vendre.
Comme on le disait aussi juste avant d'enregistrer, il y a quand même cette volatilité, mais c'est le vrai aussi pour le marché de la finance globalement aussi, sur un tweet d'un certain Elon ou certaines crypto-monnaies font la culbute ou se cassent la figure
on le suit beaucoup moins maintenant qu'il raconte trop de conneries à un moment.
Là ça devient difficile il peut pas non plus, il a atteint sa cote d'alerte de toute façon, donc d'autres événements.
Enregistre mardi passé, donc c'était pas si loin que ça. On a effectivement chatouillé les 69 202 dollars. Voilà. Donc, au moment où vous écouterez cet épisode, probablement que le chiffre sera peut-être plus haut, peut-être plus bas.
Oui. Voilà. On n'a pas parlé du halving, mais je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres.
Quand on divise la valeur en deux, hein, c'est ça.
Sur la valeur en deux sur les récompenses.
Ouais, c'est ça.
Ce qui va arriver en avril, c'est aussi un des trucs qui excite le marché pour le moment.
Ça relance le marché.
Oui, parce que du coup, c'est beaucoup plus dur, donc ça coûte beaucoup plus cher à produire. Et il y a un truc, de nouveau, ceci n'est pas un conseil, mais si vous n'avez pas d'argent, normal, mais que vous ayez envie de jouer avec ce genre de truc, mais vous ne savez pas quand acheter, alors il y a Coinbase le fait, Revolut le fait aussi, c'est que vous pouvez faire des ordres permanents. Donc vous mettez un peu d'argent sur un compte, et vous allez dire, tous les jours, achète-moi 1 euro
de
Bitcoin.
Voilà.
Ouais.
Et tous les jours, je mets 1 euro dedans.
Comme en épargne, oui, c'est ça.
Comme une forme d'épargne. Et du coup,
comme on le dit toujours dans ce domaine-là, on l'avait déjà dit, Thierry l'avait très bien dit, on ne donne pas de conseils financiers ou quoi que ce soit. Vous faites ça en bon père de famille, de manière intelligente, peut-être pour vous amuser avec de petites sommes d'argent. Ne rentrez pas dans un jeu de flambeur, entre guillemets. On n'est pas responsable de ça et on ne veut pas l'être. Mais on vous conseille quand même de faire attention. Parce que voilà, c'est quand même des sous et vous avez travaillé pour gagner ces sous, donc il ne s'agirait pas de tout perdre bêtement juste par jeu. La limite elle se situe là. Si vous avez envie de jouer, allez au bowling, là vous êtes certain de perdre votre argent, mais vous prendrez du plaisir, si je puis dire.
Ouais, sinon tu fais le café. Moi,
personnellement, j'aime pas le bowling. Mais bon, je ne fais pas ce podcast pour moi. Je le fais pour les autres. Donc, voilà. On a fait le tour de la question. Peut-être qu'on vous aura donné envie d'essayer, ou en tout cas de vous documenter une fois de plus sur le domaine. C'était un peu ça l'idée. Pas de vous inciter nécessairement à investir. Il faut être honnête. C'est juste de remettre un petit peu les choses au point. C'est 2024 là. C'est vrai que c'est, on n'en avait plus parlé depuis un bout de temps, parce que l'actualité aussi fait que tu parlais des médias généralistes qui ne parlent que quand ça monte ou ça descend, mais même nous, il faut être honnête, l'actualité est quand même fort fort occupée par l'intelligence artificielle, par ces choses-là, par Elon, par les réseaux sociaux, enfin voilà, par plein d'autres choses. Chaque période, chaque année a un petit peu sa marotte, même dans les
ETF, j'en avais parlé.
Oui, ça, tu en avais parlé, effectivement. Mais bon, voilà, c'est une époque qu'on en parlait toutes les semaines. On pouvait en parler toutes les semaines, si on voulait. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, il y a moins de...
Je peux, si tu veux.
Oui, ça, je sais. Je sais que tu es tout, tu es capable de tout faire. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux pour cet épisode 437, je suis dyslexique. Merci à vous de nous l'avoir écouté, de l'avoir consommé, de l'avoir peut-être partagé avec vos amis, de l'avoir commenté peut-être, d'avoir mis des pouces, des étoiles, des machins, etc. pour mieux nous faire connaître. C'est toujours... après 10 ans, on a encore du mal. Comme quoi, hein.
Comme le Bitcoin.
Donc n'hésitez pas, un autre duo la semaine prochaine, je sais plus encore qui, enfin, bref, un autre duo la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Technos. Merci à vous, à très bientôt, merci Thierry, merci Sébastien, ciao ciao.
Salut.